105 FM. Radio G. 101.5 FM.
Là.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Happy New Year.
Hey la bande Geek Mafia, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour la première émission de l'année 2021. Tout d'abord, nous tenions à vous adresser, chères auditrices et auditeurs, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et pour bien la commencer, dans votre émission Infoculture, nous vous proposons, comme chaque mercredi de 19h à 20h, de faire le plein d'idées cinéma, séries, romans, BD, manga, jeux vidéo, bref, tout ce qu'on aime, l'éclectisme à la bande Geek Mafia. On commence tout de suite en musique avec un titre extrait du dernier album de Gaël Faye qui est peut-être le reflet de ce que vous avez pensé lundi en allant au travail. Vous êtes bien sûr les ondes de Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, t'as glandé, la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va? T'es sûr que ça va? Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir? Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon?
Comme un lundi.
Et chaque semaine on reprend la rengaine en se disant demain sera peut-être mieux. On affronte et combat certains problèmes en achetant de petites pilules bleues. On n'est pas toujours aussi fort qu'on veut l'être, on essaye de faire comme l'on peut. On court après le bonheur à tout prix, le lundi au soleil, le moral est plus vieux.
Comme un lundi.
Semaine s'achève, au compteur s'ajoute, on en parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant, demain lundi sera méchant.
Je vais pas me laisser démonter et par bad vibes et morosité et pas se contenter mais tenter et sinon t'inventer et chauffer, chauffer, va t'entendre. Les pulsations ont des tympans, hein. Chanter, chanter, c'est comme encore. Écoutez, écoutez l'animation.
Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant. Comme un lundi. Comme un lundi, comme un lundi méchant.
Bonsoir à tous. Alors avant de commencer ma chronique, je tenais tout d'abord à vous souhaiter une très bonne année 2021 en espérant pouvoir vous retrouver très rapidement sur des émissions en direct. En attendant, je vais vous parler d'un film, The Old Guard, qui est un film américain réalisé par Gina Prince Bythewood et qui est sorti en 2020 sur la plateforme Netflix. Il s'agit là d'une adaptation cinématographique des comics The Old Guard de Greg Rucka et de Leandro Fernandez qui ont été édités par Image Comics. Alors pourquoi regarder ce film ? Bah tout d'abord, vous aurez le plaisir de retrouver la magnifique Charlize Theron qui joue le rôle d'Andromaque alias Andy, une guerrière vieille de plusieurs siècles. Alors je vous rassure, elle les porte très très bien. Elle est accompagnée de trois autres guerriers qui eux-mêmes possèdent les mêmes capacités et ils utilisent leurs talents afin de pouvoir faire le bien sur Terre. À la lecture du synopsis, j'ai sérieusement hésité avant de me mettre devant ce film. Mais pourtant, j'ai passé un très agréable moment. Alors, au-delà de l'intrigue qui nous tient pendant tout le film, il y a surtout un aspect graphique et esthétique des images qui est vraiment magnifique. Clairement, on a voulu redonner ou retranscrire l'adaptation de la BD originale. Je vous invite donc à regarder ce film. Donc, je répète, The Old Guard, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Netflix. Au revoir. Shoulders, knees, and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to 1,000 different stars, to 1,000 different arms, till I found you. I've been chasing by 1,000 different hearts, to 1,000 million hours, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins, I feel it in my head.
Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. Il y a sept péchés capitaux. La gourmandise.
Vite, venez voir ça!
L'avarice.
On touche à rien!
La paresse. La colère. L'orgueil. La luxure et l'envie. 7.
Il y a eu 2 meurtres, il faut s'attendre à 5.
On a trouvé le corps mardi matin.
Je déteste cette ville.
Il faut trouver qui a pu faire ça.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler du réalisateur David Fincher. Un fabricant d'images, virtuose mais creux, un faiseur, rien de plus. Voilà ce que pensait une large part de la critique, y compris à Télérama, au sujet de David Fincher au moment de Seven en 1995, et de Fight Club en 1999. Le natif de Denver, qui a fait ses armes dans le vidéoclip, a longtemps dérangé les gardiens de la cinéphilie pure et dure, avant de s'imposer comme un grand nom du cinéma contemporain. Un génie ou presque. Il a fallu attendre Zodiac en 2007, enquête foisonnante et palpitante autour d'un tueur en série, pour qu'il soit perçu différemment. Ce thriller était un classique dès sa sortie, mais il invitait aussi à rehausser sa filmographie antérieure. On s'est alors rendu compte que Fincher avait eu plusieurs temps d'avance et qu'il avait profité à fond des nouvelles technologies du numérique pour chambouler et repenser notre lien aux images. Il n'a cessé lui-même de brouiller les cartes en jouant avec les règles du système hollywoodien, mais aussi en rompant avec lui, préférant travailler d'arrache-pied avec Netflix sur des séries innovantes, House of Cards et Mindhunter par exemple, et aujourd'hui sur le film Mank, pour mieux préserver son indépendance, sa fièvre créatrice, son obsession du cinéma. Car au fond, il a toujours été là, le cinéma, pour celui qui a commencé dès 8 ans à filmer après son choc devant Butch Cassidy et le Kid. Même lorsqu'il était le roi précoce du clip et de la pub, il citait Blade Runner dans un spot pour Coca-Cola ou le Metropolis de Fritz Lang pour Madonna dans Express Yourself. Plus tard, on retrouvera partout des citations, des évocations de la salle de cinéma, Brad Pitt projectionniste dans Fight Club, des caméras et des images de tout format, les petits films muets dans L'étrange histoire de Benjamin Button. Mank est donc une sorte d'aboutissement logique, en s'appuyant sur un script de son propre père, ancien journaliste, rédacteur en chef de Life. Fincher raconte l'écriture épique de Citizen Kane d'Orson Welles par son scénariste, le piquant Herman Mankiewicz, frère aîné du plus reconnu que lui, le réalisateur Joseph L. Mankiewicz, qui a fait par exemple L'aventure de Madame Muir ou Eve. Sur fond d'âge d'or hollywoodien, le film est gorgé de références et de détails. Il pourrait être abscon, il est limpide. Le projet de Mank remonte à 1991. Au départ, l'auteur d'Alien 3 suggère à son père, lorsque celui-ci prend sa retraite, d'écrire sur le lien entre Mankiewicz et Welles. Le scénario connaît plusieurs versions remaniées au fil des ans. En 1997, David Fincher est sur le point de lancer le projet, mais ne trouve pas de financement. Son père meurt en 2003. En le réalisant aujourd'hui, il rend un hommage simultané à son père et au scénariste en général. Mank n'est pas un film sur le conflit entre Welles et Mankiewicz, explique-t-il, mais sur un homme qui a produit un travail personnel et qui aspire à un respect et une reconnaissance qu'il ne connaissait pas jusque-là. Je voulais que le spectateur soit assis à côté de lui, qu'il soit le témoin privilégié de son processus créatif. C'est le paradoxe de Fincher, être un formidable raconteur d'histoire sans avoir jamais été crédité comme scénariste. Pourtant, celui qui est passé maître dans l'art du récit, en suscitant du trouble romanesque grâce à des personnages ambivalents, a très bien su à la fois servir et se servir de solides scripts, certains inspirés de best-sellers, non sans mettre sérieusement la main à la pâte. L'exemple le plus parlant, le scénario de 200 pages écrit par le brillant Aaron Sorkin pour The Social Network, saga sur l'invention de Facebook. Le studio exigeait que le film ne dépasse pas 2 heures. Fincher s'est enfermé avec Sorkin dans un bureau et, chronomètre en main, a condensé, cadencé et affiné le pavé et sa montagne de dialogue pour arriver à 1h59. C'est aussi en perfectionniste qu'il a travaillé des mois durant à définir ce que devait être House of Cards sur les coulisses du pouvoir politique et Mindhunter sur la naissance du profilage, série dont il dit lui-même ne pas être le créateur, mais qui lui ont nécessité énormément de recherches et de choix divers avant le passage à la réalisation de leurs premiers épisodes. Une fusion du visuel et de l'écrit. Voilà vers quoi tend l'œuvre entière de Fincher. Et ce, dès Seven, orgie macabre de signes et de symboles. Son cinéma oscille entre transparence et cryptage. Quand je réalise un film, mon obsession est de réussir 2 choses. Élaborer une narration claire et concise pour que le public sache ce qu'il doit en tirer dès la première vision, et faire en sorte que mon film soit suffisamment dense pour résister à la dissection de plusieurs visions et même fleurir au fil du temps. Et ça marche! Revoyez Panic Room, L'étrange histoire de Benjamin Button ou son dernier en date au cinéma Gone Girl, version démente de Ken et Barbie, qui atteint des cimes de sophistication perverse dans l'amour et la haine conjugale, vous pourrez le vérifier. Ces films sont des énigmes profondes, souvent insondables. Lui-même en est une. Voilà une personne affable, courtoise, volubile même. Ses réponses sont pragmatiques, rationnelles, stratégiques. Il conçoit chaque film comme un challenge, explique volontiers que Netflix lui apporte une liberté stimulante que les studios désormais frileux sont incapables de lui accorder. Ce cinéaste, que son expérience amère sur Alien 3, remontée sans lui, film qu'il renie toujours, a blindé à jamais, est un conquérant cool qui semble avoir une confiance en lui monstrueuse, un point commun avec Mark Zuckerberg. Pour autant, on ne le prendra jamais en flagrant délit de vanité. Conscient de faire partie à 100% du système, il insiste surtout sur le collectif. Ce qui me fascine dans le cinéma, c'est le nombre incroyable de métiers réunis pour créer un film, et l'impossibilité de tout maîtriser est précisément ce qui me motive. C'est une adversité formidable. Est-ce qu'il se protège ? On aimerait en savoir davantage sur ses obsessions. L'architecture, du nid à la forteresse, et l'autodestruction, le meurtre, réel ou symbolique, et les manies toxiques, la veille et le sommeil, la matière et les rêves emboîtés. Mais quand on l'interroge sur ce terrain, il ruse. Non pas qu'il se ferme, il embobine plutôt élégamment, nous guidant sur un chemin qui semble encombré à mesure qu'il se dégage. Un chemin qui nous ramène toujours, vertige circulaire au début, un fabricant d'images. Voilà, je vous conseille de voir ou de revoir les films de David Fincher. Son dernier film est sorti sur Netflix, s'appelle Mank. Il est passé par la pub, c'est un perfectionniste, ça lui a été reproché. Mais David Fincher, c'est le maître du récit et un précurseur.
Starbucks to order my usual fare, a double vanilla latte with whipped cream and cinnamon sprinkles. Was asked to leave the establishment 'cause I didn't have a fucking mask.
Radio G. www.radio-g.fr.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
Bonjour, ce soir je vais vous parler d'un roman policier, d'un polar, écrit par David B. John, L'Étoile du Nord. C'est aux éditions Pocket, en livre de poche, ou Les Arènes, publié en 2018. Je vous lis la quatrième de couverture. Elle est espionne, sa sœur jumelle a disparu, il est général, elle est criminelle. Leur point commun, un geste, un mot, et c'est la mort. Quartier de Georgetown, Washington DC, première semaine d'octobre 2010. Jenna se réveilla en sursaut, un cri au bord des lèvres. Elle avait du mal à respirer, les yeux écarquillés, la vision encore déformée par le prisme du cauchemar. Elle fut incapable de bouger durant les quelques secondes qui séparaient le songe de l'état de veille. Puis la chambre autour d'elle se dessina lentement. Les contours gagnèrent en netteté. Elle entendit les cliquetis du radiateur et les cloches lointaines de l'église. Les yeux fermés, elle laissa doucement l'air s'échapper de ses bronches. Dans la main, près de son cou, le pendentif en forme de tigre argenté, ce collier ne la quittait pas. Elle rejeta les couvertures. L'air frais se déposa comme un voile sur son corps nimbé de transpiration. Une forme élancée et silencieuse se matérialisa sur le drap à côté d'elle. Des yeux émeraudes brillèrent dans la demi-pénombre. Le chat semblait venu de nulle part, ou plutôt d'une autre dimension, convoqué par les cloches de l'église. « Salut toi !» Elle lui gratta la tête. Place Kim Il-sung, Pyongyang, Corée du Nord. 65e anniversaire de la fondation du Parti des Travailleurs, dimanche 10 octobre 2010. Un voile de pollution en provenance de la Chine masquait tellement la visibilité que l'on apercevait à peine la silhouette grisâtre de la tour du Juche. D'ordinaire, ce monument constituait le principal repère sur la rive du fleuve Taedong. Cho Sang-ho observait la scène depuis l'un des sièges réservés à sa famille, au sud de l'esplanade. Son poste au ministère des Affaires étrangères équivalait pour l'armée à un grade de lieutenant-colonel. Outre qu'il transpirait à grosses gouttes, son uniforme rêche, porté en de rares occasions, le démangeait horriblement. Il avait un bon aperçu de la grande maison des études du peuple, autrement dit la bibliothèque nationale, et des gradins où l'on passerait les troupes en revue sur sa gauche. Il voyait également Songri Street, pour l'instant délimitée par une foule aussi nombreuse que silencieuse, au centre de laquelle arriveraient les défilés. De l'autre côté de la vaste place, des milliers de soldats de l'armée de terre et de l'armée de l'air, de la marine, ainsi que les gardes rouges patientaient au garde-à-vous, à l'image de régiments disposés sur une carte d'état-major. Derrière les militaires, 5000 civils formaient des étendards rouges et mauves le long du fleuve. Les citoyens brandissaient deux types de fleurs en papier. Les Kim Il-sung-jas, qui représentaient des orchidées du grand leader, dont l'esprit défiait l'éternité. Et les Kim Jong-jilias, bégonia ainsi baptisé en l'honneur de son fils bien-aimé. Une plage de Corée du Sud, à quelques encablures de la Corée du Nord. So Min, une américaine afro-asiatique, folâtre sur le sable avec un jeune homme. Soudain, l'eau se met à tourbillonner. La mer paraît s'ouvrir. Un monstre noir et luisant apparaît. Fin de la séquence. Les autorités diront plus tard que So Min et son amoureux se sont noyés. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Aux États-Unis, une jeune femme n'y croit pas. La jumelle de So Min, Jenna. Elle est enseignante et étudie sur son temps libre chaque parcelle de la péninsule coréenne. Jusqu'au jour où la CIA l'approche. Sa connaissance de la Corée du Nord est précieuse. Elle pourrait leur être utile pour comprendre les réelles intentions de Kim Jong-il. Après quelques instants d'hésitation, elle accepte. Pour une seule raison, en savoir plus sur ce qu'il est advenu de sa sœur. Au même moment, à Pyongyang, le lieutenant-colonel Cho prépare sa première visite officielle à New York dans le cadre des négociations bilatérales. À la veille de son départ, il apprend qu'un secret de famille risque de faire de lui un traître à la nation, destiné à dépérir dans un camp. À quelques dizaines de kilomètres de là, près de la frontière chinoise, une vieille femme, Madame Moon, tente d'agrémenter son désespérant ordinaire en se livrant au marché noir. Sous son apparence chétive, elle est dotée d'une force et d'une résistance hors du commun. Elle est déterminée à se sortir de sa condition, prête à tout pour échapper au Bowibo, la police secrète nord-coréenne. Ces trois personnages sont les piliers de l'Étoile du Nord, thriller haletant de D.B. John, pseudo britannique de David John, ancien éditeur de livres pour enfants, reconverti dans l'écriture de romans d'espionnage. De très beaux et très forts personnages de femmes, et surtout, une plongée hallucinée et terrifiante au cœur de la Corée du Nord, un pays cadenassé où l'on meurt de faim ou de privation dans des camps oubliés du monde. Camp 22, province de Hongyang, Corée du Nord, août 2011.
Allez, bande de pourris, bougez ou ça va barder.
Le réfectoire était assourdissant, bien qu'aucun prisonnier n'ouvrit la bouche. Les gardes hurlaient, la radio diffusait les mêmes messages en boucle, les casseroles, les louches, les boîtes en métal s'entrechoquaient. Des nuages de vapeur acide se répandaient dans l'air. Les femmes de cuisine s'étaient adaptées au rythme infernal du camp. Pas question de lambiner, où elles perdraient leur place en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. Les postes de serveuses demeuraient très convoités dans l'univers concentrationnaire qui était le leur. Elles avaient la possibilité de chaparder quelques grains tombés à terre, de grappiller une gorgée de brouet que l'on réservait aux cochons, fini de se casser le dos dans les champs ou à la mine. Elles avaient même des feuilles de maïs pour s'essuyer quand elles allaient faire leurs besoins. Il y avait cependant un prix à payer. Certaines avaient obtenu ce travail en mouchardant. D'autres s'étaient attachées à la protection d'un gardien qui pouvait abuser d'elles dans la réserve, derrière la bauge ou dans la forêt. Lorsqu'elles tombaient enceintes, elles disparaissaient, tout simplement. Voilà une page assez significative et tout est à l'avenant dans ce roman, c'est-à-dire lorsqu'on décrit le camp, notamment le camp 22 et certains camps de concentration, on a vraiment des échos du Stalag décrit par Primo Levi dans Si c'est un homme. Il y a véritablement une ambiance concentrationnaire qui est très bien décrite, qui fait froid dans le dos. Pour finir, les amis, je vous propose l'avertissement que l'auteur fait au lecteur. Tant d'aspects de la Corée du Nord, dictature socialiste héréditaire, qui vit coupée du monde, peuvent nous sembler plus étranges que la fiction elle-même. On raconte aux habitants qu'ils vivent sur une terre d'abondance et de liberté, alors que des enfants sont envoyés au camp pour les crimes supposés de leurs parents. Le régime utilise la famine comme moyen de contrôle politique. Au fil des ans, cette nation a souvent agi d'une manière si aberrante, si incompréhensible aux yeux des Occidentaux, que le lecteur aura sans doute à cœur de départager les éléments tirés de faits réels de ceux qui appartiennent à l'imaginaire. Dans cette optique, l'auteur a rédigé une note en fin de volume qu'il sera préférable de consulter en fin de lecture, car elle divulgue une partie de l'intrigue. Je vous rappelle donc le titre, L'Étoile du Nord, de David B. Jones, c'est chez Pocket, c'est un thriller ou roman policier de 2018. Je vous le conseille très vivement les amis. Merci de votre écoute, à bientôt.
To and then home.
on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
De spectacle.
Charge! Charge to the blockhouse! Charge!
Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, je vais vous parler de l'acteur Jeff Bridges. Si Jeff Bridges était une chanson, elle serait sans doute composée par Bruce Springsteen, panachée mélancolie, emballée dans un rythme country. 71 ans et une carrière aussi fournie que sa barbe de sage désinvolte et grisonnant, l'acteur californien occupe une place à part sur l'écran pourtant surpeuplé de nos souvenirs. Commencé dès l'adolescence, à l'orée des années 60, fils de la star Lloyd Bridges, l'homme est littéralement né dans les bras de Hollywood. La somme de ses rôles ressemble à une grande traversée de l'Amérique. Une version terrienne et fantasque, peuplée de paumés magnifiques, de débrouillards approximatifs, de cow-boys désabusés, d'ivrognes rugueux. Une grande parade en équilibre précaire entre la magnitude des rêves et l'étroitesse du réel. Et si Jeff Bridges était un vêtement, il serait un peignoir. Détendu, douillet, usé, d'un vieux rose un peu crado, ce célèbre accessoire vestimentaire appartient au dude, alias El Duderino, alias His Dudeness. En argot américain, dude signifie type ou mec, mais avec un petit supplément intraduisible d'allègre nonchalance, d'ironie affectueuse. Le dude, c'est le héros de The Big Lebowski des frères Cohen, de 1998. Un type bien, un type que rien n'affecte, glissant dans l'existence, et dans une sombre affaire de confusion d'identité, avec l'inexorable détermination d'un fleuve de flemme. Rares sont les films et les personnages qui méritent le qualificatif galvaudé de culte. Mais le dude est leur dieu à tous. Cet amateur de fumette, de White Russian, son cocktail préféré, et de bowling, est devenu une sorte de Dalai Lama de l'aquabonisme cool et décomplexé. Il a même généré non pas une, mais deux sortes de religions de l'oisiveté contemplative, le Lebowski Fest, créé en 2002, et le dudéisme. Au centre de toute cette adoration farfelue, il y a bien sûr un Jeff Bridges au sommet de son art, Ce mélange de distance narquoise et de tendre empathie, il apporte à chaque rôle. Une forme de génie marginal au service de personnages qui ne le sont pas moins, définissant en creux un peuple un peu largué, un peu cabossé, au pays de la gagne. Si visible et illustre soit-il, le Dude ne doit pas cacher une forêt de héros aussi vaillamment perdants que lui. En 1971 déjà, dans la dernière séance de Peter Bogdanovich, un tout jeune Jeff Bridges incarnait un touchant échantillon de la jeunesse rurale américaine, coincée dans une petite ville sans avenir. Ses alter-ego, il les choisit souvent dépassés ou malmenés par leurs ambitions, comme l'animateur radio de Fisher King, de Terry Gilliam en 1991, ou le Tucker de Francis Ford Coppola en 1988. Sa galerie de personnages constitue presque une longue balade du déclin, depuis le mélo, chanteur de country et soirée alcoolique dans Crazy Heart de Scott Cooper en 2010, à la romance musicale chic, joueur de piano désabusé pour Suzy et les Backer Boys en 1989. Et lorsque dans True Grit des frères Coen, encore eux en 2009, il reprend un rôle créé par John Wayne 40 ans plus tôt, il s'ingénie à fissurer la figure du marshal dur à cuire, transformant un parangon de virilité en version western d'un clochard céleste. Extraterrestre dans Starman de John Carpenter en 1984, pionnier du cyber-univers dans Tron de Steven Linsberger en 1982, visiteur occasionnel et gouailleur dans une poignée de blockbusters, le méchant d'Iron Man en 2008, c'est lui, celui que la critique américaine surnomme l'équivalent mâle de Meryl Streep, peut tout jouer, pourvu qu'il y apporte son humanité dubitative, sa tranquille rébellion. Chaque fois ni tout à fait le même Dude, ni tout à fait un autre. Voilà, je vous conseille de voir ou de revoir les films avec Jeff Bridges, qu'il soit chanteur alcoolo, shérif désabusé, il incarne l'Amérique des paumés, c'est sa spécialité, avec comme point d'orgue le Dude, bien sûr, cultissime roi des fumistes.
Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. Too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shift brake for snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. Yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but you're fucking only make it there. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies did lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain.
J'ai décidé de mon côté de vous parler ce soir, tout d'abord, d'un roman jeunesse qui fait la part belle à la montagne. En quête d'évasion cette fin d'année sous couvre-feu, ce fut un réel plaisir de m'évader dans cette montagne enneigée, dépeinte dans ce roman intitulé « Et derrière les nuages ». Édité dans la collection Ancrage chez La Joie de Lire, il a été écrit par Pascal Perrier, dont je vous parlerai juste après. Alors, de quoi parle ce roman ? Nous sommes à Chamonix de nos jours. Pour fêter la réussite de leur bac, le narrateur et Antoine, son meilleur ami, ont décidé de faire l'ascension de l'aiguille d'Argentière. La montagne, c'est toute leur vie. Elle est source de plaisir et de joie, mais aussi de drames familiaux. Ensemble, ils souhaitent devenir guides et doivent pour cela effectuer une quarantaine de courses en 2 ans avant de se présenter à l'examen d'aspirant guide. Au sommet de l'aiguille d'Argentière, alors qu'ils se sont désencordés, Antoine glisse dans le vide et se tue. Le narrateur sombre alors dans la dépression, persuadé d'être responsable de la mort de son ami. Noyé dans un chagrin qu'il n'arrive pas à évacuer, il ne supporte même plus la vue de ses chères montagnes. Il décide alors de quitter la vallée pour Lyon, essayant de passer à autre chose. Sur place, il y rencontre Leïla, une jeune fille extravertie qui, sous sa bonne humeur permanente, cache aussi des secrets et des blessures. Sa famille a déjà tout décidé de son avenir, mariage, métier. Mais Leïla est une rebelle. Amoureuse des mots et de la littérature, elle veut faire des études de lettres dans une grande école lyonnaise. Elle a coupé les ponts avec sa famille et doit justement passer un entretien important dans cette école. Ensemble, ils vont s'épauler et tenter de se reconstruire. Pour gagner un peu d'argent et permettre à Leïla de vivre son rêve, il décide même de travailler quelques semaines dans un magasin de chaussures. Mais un beau matin, l'appel des sommets se fait trop pressant. Il est temps de rentrer à Chamonix. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Les personnages sont vraiment très attachants. L'ensemble est assez crédible, exception faite de quelques petites choses un peu faciles, mais qui n'empêchent pas de savourer le livre. La haute montagne est quant à elle dépeinte avec beaucoup de précision et une sensation réelle d'immersion. L'ivresse des hauteurs est habilement décrite et ça donne vraiment une furieuse envie d'y retourner. Le public cible est celui des grands adolescents, pour qui cette histoire a tout pour plaire. Et en tant qu'adulte et lectrice plus confirmée, j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette lecture. Un bon petit roman que je conseille donc aux ados amoureux de la montagne, mais pas que. Pour finir sur ce livre, je vous propose la lecture de la très belle biographie de Pascal Perrier, publiée sur le site Ricochet Jeune. Il y est écrit « Quand elle était enfant, Pascal Perrier rêvait qu'elle serait poète sous un chêne. Depuis, il n'y a toujours pas de chêne dans son jardin, mais son amour pour les mots est resté. De là ses études pour devenir docteur en lettres, où il s'agit peut-être de soigner les mots, d'être à leur écoute. Son quotidien est surchargé, d'abord par ses 4 enfants. L'aîné a enfin l'âge de déchiffrer les livres de sa maman, tandis que le dernier se délecte à gribouiller les feuillets des textes restés imprudemment accessibles sur son bureau. Quotidien surchargé aussi par son travail de professeur documentaliste, qu'elle aime parce qu'il lui permet d'être entouré par les livres, d'en lire et d'en conseiller. Quotidien surchargé enfin par les rencontres dans les classes où elle partage sa passion de l'écriture et des livres. Malgré tout, elle trouve, trop peu à son goût, le temps de s'asseoir devant son ordinateur et de s'évader vers de nouveaux mondes à créer. Elle aime écrire des histoires. Je vous rappelle donc le titre de ce livre « Et derrière les nuages » de Pascal Perrier, édité chez La Joie de Lire dans la collection Ancrage.
S'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, vient d'arriver.
Pour finir ce soir, j'avais envie de vous parler d'une bande dessinée qui s'appelle Dans les yeux de l'IA, publiée chez Dupuis. Au scénario, on retrouve Carbone et au dessin Justine K.A. Pour l'instant, deux tomes sont parus. Le tome 1, En quête de vérité, et le second tome, Sur les traces du coupable. À la veille de ses 17 ans, l'IA se fait renverser par un chauffard qui prend la fuite, la laissant pour morte. Elle survivra, mais devra rester dans un fauteuil roulant toute sa vie. Nous prenons l'histoire 4 années plus tard. Elle termine son DUT carrière juridique et décroche un stage dans le cabinet d'avocat le plus prestigieux de la ville, celui du célèbre et médiatique maître Martin de Villejean. Son stage n'a pas été choisi par hasard. Bien au contraire, c'est ce même cabinet qui a réglé son cas des années auparavant. Ses parents ne lui ont rien dit, mais elle a découvert qu'ils avaient été achetés pour éviter des poursuites juridiques. Bien décidée à retrouver celui qui l'a renversé et à lui faire payer, elle va se mettre en quête du dossier. Un jeu dangereux commence alors, et sa soif de vengeance ne sera pas sans conséquence. Le sujet du récit est plutôt original puisque nous suivons cette jeune femme qui se transforme en jeune détective amatrice et qui enquête sur une affaire qui la concerne directement, agissant un petit peu comme un agent infiltré. C'est d'autant plus original que cette dernière est physiquement handicapée et doit surmonter les difficultés que cela implique pour mener son enquête. C'est d'ailleurs agréable de la voir pouvoir compter sur son entourage proche. C'est une belle surprise de lecture, le dessin fait très public pré-ado, alors que le récit est plus centré vers une enquête policière menée par une jeune paraplégique dynamique et sympathique, ce qui devrait plaire à un lectorat nettement plus âgé. C'est frais, drôle, le tout sur un thème assez dramatique, celui du handicap. J'ai hâte pour ma part de lire le dernier volet. Ce n'est certes pas une BD indispensable, mais elle est très très agréable à lire, donc à découvrir.
Que c'est beau de voir un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant dis la vérité, la vérité. Dis la vérité, la vérité. Surtout si c'est ton pote, la vérité. Le blesser c'est important, la vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Rien que la vérité. Dis la vérité.
T'avais même pas commencé ton album, tu disais déjà que personne n'était prêt. T'avais 15 potes, t'as fait 15 ventes, on dirait bien que personne n'était prêt. Suffit pas de vouloir la légende pour la pénétrer. T'as rien d'original, rien d'inattendu. Dès que tu parles, j'ai un déjà vu. Tu pourras jamais forcer les gens à vouloir écouter ton bruit. J'suis gentil derrière mon écran, mais dans le vrai monde je te détruis. Si je te dis ça c'est pour ton bien, tu te la racontes comme un sac à main Gucci. Mais t'entends ni les bonnes notes ni les conseils, seul dans ton monde comme un Tamagotchi. Normalement ça fait, n'écoute pas les autres, vis tes rêves. Mais toi t'es l'exception qui confirme la règle. Ton album c'est une séance d'IRM. Pour le vendre tu t'inventes une vie de voyou. Non mais tu t'es vu comme si ça t'arrivait d'être G. Rentre chez ta mère, bye bye, arrivederci.
Adieu. Dis la vérité. Dis la vérité.
Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que t'es complètement con ou t'as pas d'ego? Je suis mal à l'aise comme quand on me raconte une blague et je sais qu'elle va pas être drôle. Fais semblant d'être proche de tes fins, t'es proche de tes victimes comme un escroc. Tu les fais payer 50 balles et tu sais toujours pas tenir un micro. Trop de hype pour ton vrai niveau. Tes potes suceurs sont des mythos. T'es en philo, tu fais du migos. L'album c'est une séance de chimio. Marre de t'écouter raconter n'importe quoi pour que ça rime. J'en ai marre, tout le monde utilise les mêmes expressions. C'est la schtroumpf party. J'en ai marre, fallait pas vendre ton âme au diable. Arrête de plaindre ton label. J'en ai marre de tes chansons d'amour où tu compares ta meuf à ta mère. Marre de tes clips en DVD nul à chier. De tes tentatives de tube ratées. Aucun charisme, t'aurais dû te masquer. T'es même pas foutu de plagier.
Putain. Un artiste frustré devenir méchant, alors qu'il est juste mauvais. C'est pas parce qu'il s'acharne que c'est bien. Le flatter pour être sympa, ça ne mène à rien. Maintenant,
non, dis la vérité.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Dis la vérité.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Surtout si c'est ton pote.
La vérité.
La vérité.
La vérité.
Les blessés, c'est important.
La vérité.
La vérité. Dis la vérité.
Ce soir, pour cette chronique lecture, je vous rappelle les deux titres présentés. Nous avons « Et derrière les nuages » de Pascal Perrier, édité chez La Joie de Lire dans la collection Ancrage, et les deux premiers tomes de la bande dessinée « Dans les yeux de l'IA », le tome 1 intitulé « En quête de vérité » et le deuxième tome « Sur les traces du coupable ». Cette BD est éditée chez Dupuis et nous retrouvons au scénario Carbone et au dessin K.A. C'est fini pour ce soir. On termine en douceur avec la très belle chanson de Grand Corps Malade et Camille Lelouch, extraite de l'album Mesdames du Slammer. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente soirée. Restez à l'écoute de Radio G sur les ondes du 101.5 FM et sur www.radio-g.fr. Radio G, la radio qui fait le point.
Je te donne tout ce que j'ai alors, essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime.
attends, tu vas voir. L'amour, c'est un grand feu. Ça crépite, ça illumine, ça brille, ça réchauffe, ça pique les yeux. Ça envoie des centaines de lucioles tout là-haut, au firmament. Ça s'allume d'un coup, et ça éclaire le monde et la vie différemment. Nous, on a craqué l'allumette pour l'étincelle de nos débuts. On a alimenté ce foyer de tous nos excès, de nos abus. On s'est aimé plus que tout, seul au monde dans notre bulle. Ces flammes nous ont rendus fous. On a oublié qu'au final, le feu, ça brûle.
Je t'aime.
Ces flammes jaunes et bleues et la passion qui se consume. Pourquoi lorsque l'amour est fort, il nous rend vulnérables et fragiles? Je pense à nous et je vacille. Pourquoi depuis rien n'est facile? Je t'aime en feu, je t'aime en or. Je t'aime soucieux, je t'aime trop fort. Je t'aime pour deux, je t'aime à tort. C'est périlleux, je t'aime encore. Alors c'est vrai, ça me perfore. Je t'aime pesant, je t'aime bancal. Évidemment ça me dévore. Je sais tellement que je t'aime mal.
Si j'avance avec toi, c'est que je me vois faire cette danse dans tes bras. Tes attentes, j'en ai pas. Tu me donnes tant d'amour, tant de force, que je ne peux plus me passer de toi. Si mes mots te blessent, c'est pas ta faute. Mes blessures sont d'hier. Il y a des jours plus durs que d'autres. Si mes mots te pèsent, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Rien, mais
je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime.
Je t'aime.
Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck, that day, I cut my throat.
Radio G, 101.5 FM.